écoutez les spectateurs, vous aussi.
J'ai entendu parler d'un spectateur.
Les sociaux,
on est très fiers. C'est un peu notre sens. Ouais.
Il est 9h40 sur France Inter. L'instant M à 100% ce matin.
Merci d'être avec nous ce soir.
C'est ça quand on est en direct.
10% saison 2, les agents du cinéma français sont de retour à la télévision pour cette série française qui fait énormément parler d'elle. Répliques ciselées, situations cocasses, pantomimes burlesques, 10% s'ancre pourtant dans un réel extrêmement sensible et émouvant, jouant sans cesse avec le vraisemblable, la fiction et même l'autofiction. Cocktail subtil, troublant, les personnages de 10% font de l'armure. Bonjour Fanny Herrero.
Bonjour.
Vous êtes la créatrice de cette série qui démarre demain soir sur France 2. D'ailleurs, vous nous direz ce que c'est que d'être la créatrice d'une série. Notre Bruno Donnet du mardi matin passe son tour aujourd'hui après une semaine où il a tenu la baraque pendant que je m'en suis allée gambader dans les prés. D'ailleurs, vous êtes nombreux, très nombreux à nous écouter ce matin en vacances. Alors gambader, gambader, hashtag Instant M.
L'Instant M. Tous les médias sont sur France Inter.
Isabelle Adjani, je l'ai pas rappelée. Parce que si je la rappelle, je vais devoir lui dire qu'il y a 4 ans, j'ai reçu pour elle le scénario de Love Eternal de Sacha Hartman et que je l'ai jeté à la poubelle.
Mais pourquoi t'as fait ça ?
20 pages illustrées de dessins d'enfants. Même pas un scénario. J'ai cru que c'était l'œuvre d'un psychotique, j'ai voulu protéger mon actrice. C'est la faute que redoute chaque agent. La pire connerie de ma carrière. Dans ce métier, le manque de flair, c'est pire qu'une tare. C'est une malédiction.
Voilà, Fanny Herrero, vous auriez écrit une série sur l'édition. Je pense qu'on aurait une séquence assez similaire. Et sinon, dans les séries médicales, on a forcément une séquence sur l'erreur médicale. Vous pénétrez un milieu professionnel très spécifique et très peu connu, celui des agents. Il vous faut être compréhensible par tous, pas de private joke, hein, c'est-à-dire de petites choses qui ne sont compréhensibles que par les gens du milieu. En même temps, vous devez être pointu pour être crédible. Est-ce que d'abord, vous avez éprouvé, est-ce que vous éprouvez toujours cette espèce d'excitation de la série médicale ou judiciaire à s'approprier ne serait-ce que les mots du métier?
Bah évidemment, c'est un grand plaisir justement d'aller chercher dans la boutique, mais pour que ce soit suffisamment précis, pour qu'on ait vraiment l'impression d'y être, pour que soudain se suspende l'incrédulité du spectateur, c'est-à-dire qu'il soit vraiment avec nous dans notre monde, et en même temps que
vous-même, que comme téléspectatrice, vous êtes
amusée. J'adore ça, et moi dans The West Wing, j'adore quand il parle de décrets et de lois auxquelles je ne comprends rien, que dans Urgence, il me parle de médicaments et d'interventions chirurgicales auquel je ne comprends rien, mais ça fait vraiment partie du plaisir du truc.
Ouais,
c'est là qu'on voit que les gens sont sérieux.
Totalement. Alors comment est-ce qu'on s'empare du réel pour le fictionner ? On s'en imprègne pour mieux s'en arracher ? Ou au contraire, on s'imagine des situations de pure fiction qu'ensuite on essaye de réinsérer dans la réalité ?
C'est vraiment, en fait, c'est un jeu d'aller-retour permanent entre les deux. En fait, on part de notre expérience, nous, les scénaristes, enrichis de discussions de déjeuner avec des agents, avec Dominique Besnier qui produit la série, ou d'autres agents qu'on a rencontrés, d'autres amis, des copains acteurs. Après, moi, je baigne quand même dans ce milieu depuis une dizaine d'années maintenant. Donc, j'ai autour de moi des copains réalisateurs, des copains acteurs. J'ai moi-même, je suis dans une agence artistique, je suis représentée. Donc, j'entends plein d'histoires. Donc, je m'inspire de ça. Et en même temps, il y a aussi des fois où ça part d'une intuition, d'une impulsion d'auteur. J'ai envie de parler de ça. J'ai envie de cette scène. J'ai envie de cette situation-là. Et elle vient juste de moi, de l'intérieur de moi, de mon cœur, en fait. Et puis après, il va falloir la crédibiliser et la rendre compatible avec 10%.
Alors avec vos acteurs invités, les guests, on dit chez les anglo-saxons, qui importent leur nom, leur notoriété et leur passé, et ben là aussi on a d'autres moments très délicats hein, où se télescope la fiction et le réel. Prenez un acteur vieillissant et un peu délaissé par le cinéma français, faites-lui jouer un acteur vieillissant qui perd les pédales après un AVC, Guy Marchand.
On a dansé l'été dernier, mais vous êtes encore plus belle maintenant. Vous êtes surprise, je sais. Vous ne savez pas encore, mais vous m'attendiez. Et là, sur ce quai, c'est le moment. Alors, cueillons ce moment, puisque tout s'enfuit si vite.
Très très belle scène, hein. Qu'est-ce qu'elle est émouvante, cette séquence?
Je l'aime d'autant plus que on part d'un scénario pour faire une déclaration d'amour. Là, ce qu'on entend, c'est Guy Marchand en train de jouer une scène. C'est un film dans le film, en fait. Oui. Et grâce à cette scène écrite du scénario, il s'adresse à quelqu'un et il lui dit ça. Et en tant qu'auteur, moi j'ai ce plaisir, je peux utiliser dans 10% le scénario comme matière à jouer, comme matière à vivre, comme matière à déclarer.
Alors là aussi, où est-ce que vous situez la ligne très fragile entre la réalité et la fiction, puisque vous avez clairement fabriqué des situations très archétypales avec vos guests, avec vos acteurs invités, hein. On a la star vieillissante, je l'ai dit, on a la star imprenable, la diva que tous les agents rêvent de s'offrir, on a le couple d'acteurs paparazzé en pleine infidélité conjugale. Donc là-dedans, vos invités, ils étaient totalement interchangeables.
Pas totalement, mais disons que cette année, pour se protéger, parce que bon, la précédente saison, la saison 1 où tout était à créer, ça a été pas forcément simple de faire venir les guest stars, en fait. Ils étaient timides de venir à la télévision. Grâce au succès de la saison 1, ça a été beaucoup plus simple de faire venir les gens. Mais nous, les auteurs, on a voulu quand même se protéger parce que ça, au moment où on écrivait, on n'en savait rien, en se disant, il faut que les histoires soient solides et suffisamment ouvertes pour que si on a un refus de la personne qu'on désire le plus, on soit pas le bec dans l'eau à devoir tout réécrire. Donc, on essayait de partir d'histoires, comme vous dites, un peu archétypales, qu'on leur propose une fois qu'elles étaient assez abouties, et s'ils nous rejoignaient, s'ils disaient oui, dans ce cas, on rentrait dans un travail avec eux à la table de discussion pour voir comment on va maintenant mettre des ingrédients un peu plus autobiographiques. Et là, on commençait à jouer avec l'autofiction. Donc, on part de la fiction, puis on se rapproche de l'autofiction.
Alors, Isabelle Adjani accepte une impro face caméra pour séduire un jeune réalisateur allemand assez sadique. Faut dire qu'il est en pleine phase de dépit face à Isabelle Adjani, il lui en veut.
Je joue Ulysse. Excusez-vous.
C'est une plaisanterie.
Pas du tout.
M'excuser de quoi, mon petit Ulysse? Tout le monde sait que je transforme les gens en animaux. C'est dans tous les guides sur la Grèce. Quand on voyage, faut se renseigner.
N'empêche, vous m'avez trahi. C'était mes amis.
Bah, comment je le sais, moi? Faut leur faire des casquettes personnalisées, la bande à Ulysse. Pour moi, vos amis ressemblaient tous à n'importe quel touriste de passage. Alors, hop, en cochon, comme tout le monde. Je vais pas m'excuser pour ça.
C'est pourtant ça que je vous demande. Je suis un héros. J'ai pas mal de soutien qui pourrait vous faire du mal.
Et moi, je suis une déesse. Je gagne à tous les coups. C'était bien, non? Ça fait longtemps que j'ai pas fait d'improvisation. Je pourrais avoir la vidéo?
Aïe, 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 les dialogues, c'est super joli. En fait, là, vous avez deux grandes traditions du cinéma américain qui se rejoignent. C'est le film qui raconte les coulisses d'un film, parce que les Américains ont fait ça. Alors, dans le drame, dans la comédie musicale, c'est même vraiment toute une école. Et puis aussi l'acteur invité qui joue son rôle. Vous aviez pour le coup des références, des matrices, des choses qui vous avaient donné envie.
Là, vous parlez des références de cinéma, notamment. Un peu, mais on n'a pas voulu trop, justement. Forcément, on en est un peu imprégné, mais Hollywood, c'est pas Paris.
Non.
Le business du cinéma aux États-Unis, c'est pas le nôtre. Le nôtre, il est plus feutré, plus artisanal, plus auteur, plus opaque, plus bancal, je pense. Et donc, il fallait pas trop aller s'inspirer d'Hollywood. On est déjà tellement baigné de la culture américaine, donc il fallait aller chercher, nous, là, je parle nous, l'équipe de Disney. Donc les auteurs, les producteurs, les comédiens, donc les réalisateurs aussi, de trouver nos propres références, notre propre rapport à ce milieu, à ce métier. Alors c'est le nôtre, donc ça nous aide forcément, puisque du coup on parle de choses qui sont assez intimes pour nous.
Et alors pourquoi ne pas avoir inclus dans les problématiques que traitent vos agents de fiction, hein, et ben celle de la série télé, puisque c'est un genre en pleine mutation en France. Et puis alors ça fait très longtemps qu'aux États-Unis ça aspire les grands réalisateurs, les grands acteurs, etc. En France ça suscite encore des réticences. Pourquoi est-ce que vos agents ne sont pas là en train de discuter avec leurs acteurs de oui ou non aller jouer dans une série télé?
Saison 3.
Saison 3. Est-ce non, que dans la saison 3, vous allez pousser la mise en abîme jusqu'à s'interroger sur oui ou non prendre un rôle dans 10%?
C'est possible, ouais, c'est possible qu'on le fasse. Après, là, c'est pareil, il y a toujours ce truc de boutique, pas boutique, private joke, pas private joke. Si on commence à rentrer vraiment dans...
La série qui parle d'elle-même.
Voilà, la série qui parle d'elle-même.
Mais en même temps,
voilà, on aime ça, on aime le jeu de miroir, on aime la mise en abîme, on pratique ça tout le temps dans cette série, donc c'est très possible.
J'ai eu du nez. À propos de séries françaises qui changent, le vrai Fabrice Luchini, hein, le vrai, parle avec Andrea, donc qui est interprété par Camille Cotin, l'un des agents de 10%.
Vous êtes Gwyn?
Je sais pas si le mot existe encore, mais enfin...
C'est dément. Vous savez comment ils appelaient ça au début du siècle? C'est la brioche maudite. Il y a eu les femmes d'aller de Baudelaire, et puis après ça s'appelait la brioche maudite. Et c'est arrivé quand, ça? Très tôt?
je devais avoir 11, 12 ans, peut-être même avant d'ailleurs.
Mais ça part d'où?
Ça part du même endroit que vous.
Non, ça n'a rien à voir, la libido masculine et l'amour féminin. La libido masculine est extrêmement pauvre, elle est mécanique, c'est une pauvre secousse, une misérable secousse. Avec la féminine, elle n'a pas de limite. Je suis désolé de vous avoir dérangé.
Non, vous inquiétez pas, de toute façon, on n'avait plus de piles.
Vous êtes frontal, hein?
Il est 9h50 sur France Inter. Qu'est-ce que ça veut dire qu'elle avait plus de piles, Fanny Herrero?
Oui, mais là, l'extrait est sorti de son contexte.
Ah bah, ouais. Vous allez l'y remettre.
Dans cette scène, Fabrice Lucchini appelle Andrea, qui se trouvait dans un lit avec
une autre femme,
avec une... Voilà.
Non mais vraiment, vous y allez en fait assez frontalement, vous aussi. Hein, ouais. Vous êtes sur une chaîne publique et en prime time, bar gay, sex toys, puisque le
plus de piles, c'est vibromasseur. Elles ont un sex toy qui n'a plus de piles.
C'est ça. Les coups d'un soir, les plans à trois, les palabres sur la sexualité féminine. En réalité, c'est du quasi jamais vu. Hein, sur France 2 en prime time, sur France 3, je vous dis même pas, et alors sur TF1.
Moi, j'essaye de pas trop penser à ça. Je le sais, évidemment, dans le fond, je le sais. Et du coup, ça me fait plaisir de mettre les pieds là-dedans. Mais c'est aussi parce que moi, j'ai envie de parler de ça. Moi, ça me touche. Moi, je trouve que, enfin, voilà, les personnages 10% sont animés par une libido, sont animés par le désir. C'est une série qui parle beaucoup de ça, du désir. Mais du désir dans la vie, du désir dans le travail. C'est des gens qui sont passionnés, donc qui sont mus par des forces, en fait, charnelles. Du désir entre un réalisateur et sa comédienne, entre un agent et un talent, forcément. Donc, je trouve ça, enfin, pour moi, c'est important que la série soit traversée par ça. Et du coup, c'est important d'en parler. Moi, j'aime écrire, j'aime les mots, je suis pas auteur pour rien. Et 10%, c'est une série qui est assez bavarde. Oui. Et cette scène qu'on vient d'entendre, là, l'extrait qu'on vient d'entendre entre Fabrice Lucchini et Andrea, quand j'ai commencé à réfléchir à cette intrigue de il faut aller voler Lucchini à une autre agence, c'est pratiquement la première scène à laquelle j'ai pensé. J'avais envie de cette scène sur un balcon entre les deux, dominant Paris, où on allait parler de sexualité. Et finalement, c'était par ce biais-là qu'Andrea allait le choper, en fait.
Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un autre personnage homosexuel dans la série, c'est Hervé, l'un des assistants, qui est très drôle avec des répliques d'anthologie. Et là, c'est complètement un autre traitement. C'est-à-dire que là, c'est un personnage qui est beaucoup plus too much. Il y a même du burlesque dans le personnage d'Hervé.
Là, vraiment, c'est valable pour tous les personnages de cette série. Mais le rôle d'Hervé, c'est la rencontre avec Nicolas Maury, le comédien qui l'interprète, qui est un comédien qui, malgré son outrance, a une telle poésie, une telle singularité qui peut faire tout passer, en fait. Et la vérité, c'est que moi, quand j'avais imaginé ce personnage d'Hervé, j'imaginais un gars qui ne porte pas son homosexualité sur son visage, en fait. J'imaginais un mec, en fait, ça se voyait pas. Et puis un jour, au détour d'une phrase, on comprenait qu'il était homo, puis bon, bah ok, très bien, puis on s'en fiche. Et le personnage, enfin Nicolas Maury est arrivé avec cette gestuelle assez sophistiquée, assez maniérée, donc on se retrouve dans un archétype de l'homosexuel, mais il le fait avec, encore une fois, une telle fantaisie, une telle originalité que tout passe.
Tout passe.
Donc,
tout passe.
Évidemment, c'est un des grands atouts comiques de la série, ce personnage, et on l'a vraiment valorisé en saison 2, parce que le bonheur d'une saison 2, c'est qu'on sait pour qui on écrit aussi, on écrit pour ces acteurs-là, donc Nicolas Maury, on savait qu'on avait envie de le
faire
grandir. Alors
justement, on y vient à cette série qui est une série résolument chorale, et pourtant chaque personnage a pris de l'épaisseur.
C'est marrant, hein, mais je trouve que depuis que t'es séparé de ta femme, t'es plus humain.
C'est provisoire.
Quoi, que tu sois humain ou séparé?
Dès qu'ils sont réconciliés, j'ai récupéré tous les deux.
Mais tu crois vraiment qu'ils vont se remettre ensemble?
Un couple, ça passe par beaucoup de choses, tu verras.
Un couple, je sais ce que c'est qu'un couple, hein.
Non, je te parle d'un vrai couple, Gabriel.
Écoute, je suis resté un an et demi avec Florence, je suis avec Sophia, c'est très sérieux, je sais ce que c'est qu'un...
Un vrai couple, ça commence au bout de 3 ans.
Et avant, c'est quoi, alors?
Une comédie romantique.
Voilà, donc je le disais, série résolument chorale, et pourtant chaque personnage prend de l'épaisseur. Alors, Fanny Herrero, vous avez travaillé sur Fais pas ci, fais pas ça. Vous avez beaucoup travaillé sur Le village français, sous la houlette de Frédéric Rivine, qui était aussi une série chorale par excellence. Qu'est-ce que vous y avez appris, justement?
Mais moi, pour moi, le bonheur de la série, c'est le cœur, sens, enfin avec un H, quoi. La série chorale, pour moi, c'est là où la série prend tout son sens, parce qu'on a du temps, on peut développer. Je crois que ça m'ennuierait, moi, d'avoir une série centrée sur un ou deux personnages. Ouais. Le plaisir 10%, et pourtant on n'a que 6 épisodes, mais c'est vraiment de pouvoir irriguer.
On s'arrête une seconde. Oui. Pourquoi 6 épisodes?
Parce que c'était comme ça au départ et qu'on a trouvé nos marques là-dedans, parce que c'est très difficile.
Parce que ça s'essoufflerait, parce que la mécanique non. des guests,
non,
etc.
Non, moi je pense pas. Je pense qu'on pourrait avoir les histoires et qu'on pourrait faire venir les guests. Mais c'est nous, là, en tant qu'équipe, on a trouvé notre équilibre avec 6 épisodes. Il y a quand même une réalité de 10%, c'est que pour aller contacter les stars et les faire venir, il faut avoir des scénarios qui sont très aboutis. Mm-hmm. Et donc si, et on, ça nous prend beaucoup de temps entre le moment où on leur propose le scénario et le moment où on est sûr qu'ils viennent, il faut faire un plan de travail. C'est compliqué en fait. Donc si on avait plus d'épisodes, ça prendrait beaucoup plus de temps et on exploserait le délai d'une saison à l'autre.
Parce que toutes les grandes séries américaines qui ont fait énormément évoluer le personnage de série télé, ça va de la Maison Blanche que vous citiez tout à l'heure à Six Feet Under, à House of Cards, c'est beaucoup beaucoup plus d'épisodes.
C'est des saisons de 12 en général, entre 10 et 12.
C'est ça.
Et c'est vrai qu'on a du mal à le faire, mais ça tient à la singularité de 10%, ça tient à justement la présence des stars et que c'est compliqué de les faire venir. Ça tient à notre façon de travailler, ça tient au fait qu'on n'a pas d'auteur, nous, en France, en dehors de ceux qui tiennent leur série, qui sont dans ma position, mais les scénaristes qui travaillent avec moi ne sont pas exclusivement sur 10%, en fait. Ils travaillent sur plein d'autres choses. Parce que sinon, ça leur suffirait pas pour vivre. Donc, on ne peut pas les avoir en exclusivité pendant 6 mois ou 8 mois pour ne faire que ça. Donc, ça crée des plannings qui sont un peu plus lâches, un peu plus, voilà, et c'est comme ça.
Alors, 6 épisodes néanmoins, ça fait quand même des personnages très, très aboutis, j'ai dit, plein de, avec beaucoup plus de faiblesses, de larmes, de doutes que dans la saison précédente. Et donc, je dirais que là, vous mélangez les genres plus que jamais. Ce qui est assez rare en France, parce que les Boulets et les Le Pic de Fais pas ci, fais pas ça, ils sortent jamais de leur registre.
Alors, c'est vrai que nous, j'ai l'impression qu'on a un paradoxe sur 10%, c'est qu'on a peu d'épisodes, 6 épisodes, et qu'on concentre beaucoup de choses pour faire, en fait, mais c'est pas une stratégie, c'est comme ça, quelque chose d'assez ample. Ample dans le registre, ample dans les histoires traitées, ample dans les canaux que vont emprunter nos personnages. Vous le disiez tout à l'heure, du burlesque au mélo.
Au mélo, il y a beaucoup de mélo.
De la comédie bavarde à la comédie de situation physique, enfin. Donc, c'est vrai qu'on a une amplitude de registre, mais moi que je revendique, encore une fois, c'est mon plaisir, la série, c'est ça. C'est l'amplitude. C'est pouvoir aller creuser des sillons variés. Après, il faut tenir sa boutique, c'est-à-dire qu'il faut que ça reste cohérent, faut pas qu'on se perde là-dedans. Donc parfois, c'est assez fin le réglage. Mais c'est ça qui me plaît, moi, c'est d'avoir plusieurs personnages, beaucoup de personnages, de se faire se rencontrer les histoires, de se faire se percuter les intrigues, mais que ce soit ample, large, que ça aille loin, en fait.
Et alors, comment on fait ? On part d'un canevas qui fait rire pour introduire de la nuance, quelque chose qui émeut, ou est-ce qu'on part du canevas qui fait pleurer pour glisser la torsion et la vrille qui fait marrer ?
C'est une bonne question. C'est un peu les deux, en fait. Mais quand on réfléchit avec les auteurs au début, quand on commence à inventer ce qu'on appelle les arches, tout ce qui va arriver aux personnages dans la saison, souvent on part d'une base qui est plutôt drama, donc une base réaliste, émotionnelle. Voilà, qu'est-ce qui va lui arriver ? Qu'est-ce qui met en jeu dans cette saison ? Quel est son enjeu fort ? Et après, on va dire, mais il faut le traiter à la 10%. Donc, il va y avoir un peu des larmes, mais il faut quand même qu'il y ait des situations qui soient suffisamment fertiles pour que ça nous fasse éclater de rire, quoi. Donc, on part du drama et on l'imagine après en traitement quand même plus comique.
Merci beaucoup, Fanny Herrero. Ça démarre demain soir, 10%. Fanny Herrero, je vous présente Ali Rebéi, l'un
Fanny
des
Herrero.
Meilleurs connaisseurs de la série française et américaine.
La précédente saison était absolument formidable.
Mais là aussi, il y a des choses très, très émouvantes. Très, très drôles et très, très émouvantes.
Demain soir.
Ali, on parle de Grand Bien Vous Fasse.
Alors, comment bien vivre...
On continue à parler de séries, parce que parfois, Grand Bien Vous Fasse parle de séries.
Exactement. Alors. Comment bien vivre son hypersensibilité ?
Ah bah voilà.
Ça vous concerne ou pas, Sonia
Moi,
de Villers ?
Moi, oui.
Bon.
Comme tous les gens qui rigolent très fort, hein. En fait.
Alors, vous pouvez réagir au 01 45 24 7000.